Vous écoutez le Libre Journal de la Résistance française, dirigé aujourd'hui par Nicolas Stocker, assisté de Lara Stam, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 7 juillet 2021, de 18h à 21h, et réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone, non pas par téléphone, uniquement par courrier électronique, en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Cher Nicolas, je vous rends l'antenne.
Merci beaucoup Franck. Alors, chers auditeurs de Radio Courtoisie, sur cette guerre vaccinale, nous venons de passer une heure et demie déjà avec le docteur Vincent Reliquet, avec Vincent Pavant et avec le docteur Humlil. Nous allons accueillir tout de suite le docteur Olivier Soulier, que je n'ai plus à présenter sur Radio Courtoisie. J'aurais aimé avant son intervention, docteur Reliquet, que vous nous fassiez une petite synthèse de cette première partie. Est-ce que vous êtes, est-ce que vous croyez que là on avance bien quant à la thématique et à ce que nous nous étions fixés comme objectif pour réinformer les auditeurs de Radio Courtoisie depuis une heure et demie, docteur Reliquet?
On fait mieux que d'avancer là. On est propulsé par des réacteurs de grande qualité. Évidemment, je crois qu'on avancera vraiment quand on aura la capacité, ce qui commence à apparaître, de se saisir du problème de la vaccination anti-Covid par tous les bouts. C'est-à-dire qu'on a besoin de comprendre comment on se fait manipuler par des chiffres qui sont complètement fantaisistes. Donc on a besoin d'avoir un contre-calcul. C'est ce que nous propose Vincent régulièrement avec sa cellule à Réinfo Covid. Donc on voit quand même que quand il y a autant de morts, par exemple, dans une tranche d'âge, qu'on se vaccine ou qu'on attrape le Covid, ça laisse quand même un peu réfléchir. Quand on voit qu'un enfant n'a aucune chance, qu'il a 200 fois plus de chances de décéder de son vaccin que du Covid, enfin, c'est abominable. C'est abominable. Alors, quand on a en plus la chance d'avoir Amine qui nous permet de nous saisir d'un autre aspect absolument crucial des vaccins, c'est sa partie réglementaire. Ouais. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on utilise la sphère réglementaire d'un produit de santé, on peut le retourner. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois dans le passé où on peut plaider la défectuosité d'un produit et du coup on peut retrouver un retrait du marché du produit pour défectuosité. Donc quand Amine Humlil rejoint le cœur des gens qui se méfient, eh bien je pense que c'est un apport considérable dans la manifestation de la vérité de l'intérêt du vaccin. Vous avez remarqué que Vincent a avancé que dans certaines tranches d'âge, il est possible que le bénéfice sur risque soit possiblement en faveur des personnes. Eh bien, ça c'est... Je me rends compte que soi-disant, nous sommes des affreux anti-vaccins, c'est quelque chose qu'on peut parfaitement entendre. On peut parfaitement entendre que certaines catégories de population puissent admettre un bénéfice à un produit type vaccin Covid. Aucun problème. Ce qui nous hérisse tout particulièrement, c'est la malhonnêteté. Bon, la malhonnêteté, la première, c'est de dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire au vaccin Covid. C'est une abomination. Et la deuxième malhonnêteté, c'est de dire que tout le monde doit pouvoir bénéficier du vaccin parce que tout le monde y a intérêt. C'est abominablement malhonnête.
Merci docteur Reliquet. C'est je pense pour des dizaines, voire des centaines de milliers d'auditeurs de Radio Courtoisie. Aujourd'hui, c'est un immense soulagement et quel bonheur d'entendre ce que nous entendons depuis une heure et demie. Avant d'avoir le docteur Soulier, Vincent Pavant voulait répondre par rapport à ce que vient de dire le docteur Reliquet.
Oui, en effet, je pense que dans ce que nous on a pu voir, la balance bénéfice-risque qu'on nous annonce en faveur du vaccin sans condition n'est pas du tout avérée. Il y a vraiment besoin de continuer à explorer les chiffres. Pour ça, il faut effectivement qu'ils soient disponibles de manière loyale, on va dire. Mais effectivement, de ce qu'on a vu, c'est que par exemple, chez les tranches les plus âgées, la létalité Covid apparente était plus élevée que celle de la qualité du vaccin. Donc moi, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, moi, en tant que scientifique, j'ai pas à avoir d'avis pour ou contre une vaccination. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est d'afficher des chiffres avec lesquels, effectivement, les gens pourront se décider ou pas. Et donc, ces chiffres, il faut qu'ils soient définis. Il faut que la manière avec laquelle on les a calculés soit transparente. Et qu'ensuite, sur la base de cette donnée, effectivement, les gens se décident. Donc, nous, ce qu'on a vu, je le répète, sur les létalités apparentes, définies proprement, hein, comme j'ai pu le rappeler, eh bien, sur les tranches de moins de 65 ans, les létalités en fait, de vaccin Pfizer étaient supérieures ou égales à celles de Covid. Pour les tranches des plus âgées, c'est l'inverse, effectivement. Et sachez également par sexe que la létalité apparente du vaccin Pfizer est supérieure à celle du Covid pour les femmes et inférieure à celle du Covid pour les femmes et supérieure pour les hommes. C'est-à-dire que quand vous êtes un homme, la létalité apparente du vaccin est plus forte. Donc voilà. Donc après, c'est à chacun, effectivement, de se décider en fonction de ça, mais on peut tout à fait... moi, j'ai, en tant que tel, j'ai pas d'avis à donner sur pour ou contre une vaccination. De toute façon, comme l'a rappelé le docteur Hulnil, ça appartient à chacun dans le cadre des libertés qui sont garanties par la loi.
On va devoir libérer une place pour Nicole et Gérard de Lépine, les docteurs Nicole et Gérard de Lépine. Est-ce que vous voulez quelques mots de conclusion, Vincent Pavant, avant que vous soyez obligé de raccrocher et que nous ayons aussi ces derniers intervenants à la radio?
Oui, d'abord merci beaucoup pour cette invitation et
merci à vous de votre participation.
Et Vincent. Puis simplement, voilà, moi j'ai envie de lancer un appel solennel quelque part ici aux autorités pour qu'on puisse disposer des chiffres, de sorte que effectivement tous les calculs puissent être transparents, que tous ceux qui veulent faire des calculs puissent se présenter de manière transparente à partir de données qui seront les mêmes pour tout le monde. Et sans cela, je crois que de toute façon, il y aura toujours des doutes et des soupçons qui émailleront les chiffres qu'on nous donne. La science, je rappelle que c'est d'abord une méthode, et cette méthode, c'est celle de l'ouverture, c'est celle de la contradiction, et c'est celle de la transparence, et c'est exactement ça qui n'est pas effectivement produit aujourd'hui par les gens qui donnent des chiffres de pharmacovigilance, hélas.
Merci beaucoup Vincent Pavant et puis à très bientôt sur Radio Courtoisie. Il y a des questions d'auditeurs et à mon avis, eh bien, nous allons demander, alors peut-être aussi à d'autres invités, mais le docteur Soulier va être parfaitement à même d'y répondre. Docteur Soulier, vous êtes parmi nous?
Bonjour.
Bonjour docteur, bonjour Olivier.
Ravi d'être avec vous pour cette émission d'une remarquable qualité.
Ah oui, je partage totalement ce point de vue et je sais que vous allez relever vous aussi et vous allez rester à ce même niveau. Vous êtes, parce qu'on vous connaît bien docteur Soulier, vous êtes médecin homéopathe et acupuncteur, vous êtes spécialisé dans la médecine du sens, vous êtes un conférencier international et vous avez dès 1988 livré votre première conférence qui était intitulée, tenez-vous bien, à quoi servent les maladies. Alors, on va pas en parler ce soir. On en parlera sur l'émission prochaine au mois d'août, hein, qui va être enregistrée fin juillet. On pourrait l'entendre dans deux sens, à quoi servent les maladies, hein, au sens où vous l'entendez, la médecine du sens. Mais on voit aussi à quoi sert aujourd'hui pour la finance internationale, pour Big Pharma, le coronavirus. Il y a des questions d'auditeurs qui me paraissent extrêmement intéressantes, entre autres sur qui s'interrogent sur Pfizer. Étant donné qu'on a fait une heure et demie sur Pfizer, ils demandent à qui appartient ce groupe pharmaceutique. Il y a le nom de quelqu'un qui vient de décéder récemment, qui aurait été un ancien PDG de Pfizer, un certain Donald Rumsfeld, par exemple. Ça peut être, je sais que vous êtes spécialiste dans ces thèmes, Olivier Soulier, vous allez pouvoir nous répondre. Et puis, des questions, sur le fait que, indéniablement, le virus était là bien avant, dès novembre 2019. Cette personne qui habite la République dominicaine nous le dit. Elle était malade et elle est tombée malade en novembre 2019 de quelque chose qui était déjà, et ça confirme totalement ce qui a été dit en première partie d'émission, le virus était déjà là bien avant le mois de janvier dont nous a parlé le docteur Reliquet. Docteur Soulier, vous êtes, en plus de tout cela, un des porte-parole de Réinfo Covid. Vous avez pris aussi toute votre part dans la constitution du Conseil scientifique indépendant, dont Vincent Pavant est membre aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, là, maintenant, à la fois par rapport à ce que vous avez entendu des questions des auditeurs, ce que vous avez entendu pendant une heure et demie? Comment vous avez envie que nous continuions cette émission, docteur Soulier?
Alors, d'abord, bravo pour l'excellente mise en place qu'a fait Vincent Reliquet, que j'apprécie beaucoup, qui fait un super boulot. Amine Numlil nous a donné aussi beaucoup d'éléments, et Vincent Pravant, comme d'habitude, a été très pro au niveau des informations. Alors, si on essaye de prendre un petit peu de recul, je vais parler après à savoir à qui appartiennent les labos. Ça, c'est quelque chose d'important. Oui. Et je pense qu'on se trouve dans une situation où on voit bien qu'à travers tout ça, que depuis le début, cette épidémie qu'on a transformée, pour faire plaisir à Bill, en pandémie, est, je veux dire, cousue de fil blanc. On voit bien que ça existait là avant, quand...
Peut-être essayer de mettre... Ouais, je vais quand même aller voir.
Quand notre... quand le commissaire européen dit qu'on a inventé, en décembre 2020, qu'on a inventé un vaccin en 18 mois, ça veut dire en juin 2019. Et quand on sait que Moderna, effectivement, en janvier 2020, avait déjà les éléments, on voit très bien que tout ça, c'est prévu depuis fort longtemps et que Bill Gates a essayé depuis longtemps de faire passer une épidémie pour faire vendre des vaccins et pour mettre un peu son plan un petit peu de mégalomane, délirant. Et voilà. Donc ça, on voit déjà ça. Maintenant, on voit que depuis le début, tout est fait pour vendre un vaccin, et en particulier, on a bloqué tous les traitements autres, c'est-à-dire d'abord l'hydroxychloroquine qui marche extrêmement bien, que j'ai beaucoup utilisé, maintenant l'ivermectine qui marche encore mieux, et tous les pays en Inde, au Mexique qui l'ont utilisé ont éteint l'épidémie en un temps record. Donc on voit bien que tout a été manipulé pour vendre le vaccin. Et aujourd'hui, on arrive dans cette situation où ce vaccin a été mis sur le marché à l'inverse des autres vaccins qui sont mis avec beaucoup de rigueur, beaucoup de précautions, et on s'en réjouit pour que les vaccins gardent tout leur pouvoir et toute leur crédibilité. Celui-là, il est mis sur le marché à toute vitesse, en phase d'expérimentation, où quelque part tout le monde est des cobayes, et on voit apparaître une quantité de morts et d'effets secondaires considérables. L'Agence européenne du médicament a avoué déjà 17 000 morts, et on sait qu'on en a entre 10 et 100 fois plus, donc 170 000, peut-être plus d'un million de morts en Europe, et des centaines de milliers ou des millions d'effets secondaires. Moi, je vois ça tous les jours. Hein. Tous les morts que je vois autour de moi.
Ah bon ?
L'autre fois, une étudiante en médecine, 22 ans, vaccinée, infarctus le lendemain, alors qu'elle est en pleine forme. Et j'ai dit, mais alors elle a été déclarée, non, le médecin a dit que ça ne pouvait pas être ça. Bah, un infarctus à 22 ans, ça n'existe pas en médecine quand on ne fait pas 130 kilos. Voilà, donc aujourd'hui on voit ça énormément. Et il y a une sorte de course contre la montre, entre d'un côté le gouvernement qui voudrait faire vacciner tout le monde au plus vite,
oui,
et de l'autre côté les effets secondaires et l'imprudence de ce vaccin, qui apparaît de plus en plus. Qu'est-ce qui va gagner? Est-ce que le gouvernement veut réussir à vacciner tout le monde avec des modes de chantage qui ne sont pas acceptables et qui d'ailleurs ne donnent pas n'ont pas l'accord des pro-vaccins? Et de l'autre côté, la vague, le véritable catastrophe de décès qu'on voit apparaître et qui est totalement censurée. Donc on est face à ça. C'est-à-dire que ce plan prévu depuis le début, on le voit, et ce que dit Vincent est très très clair dans la mise en place. Eh bien aujourd'hui, qu'est-ce qui va gagner, la vérité ou le business? Et pour répondre à votre deuxième question concernant qui possède les labos, Donald Trump, il possède pas Pfizer, bien qu'il ait des actions un peu partout, mais c'était Gilead. Hein.
D'accord.
Donald Rumsfeld avait beaucoup d'actions dans Gilead, qui est intervenu dans plein de choses. Donc,
alors rappelez-nous, Gilead, c'est un, voilà, c'est le Remdesivir.
C'est le Remdesivir, voilà. Alors, je ne sais pas si à la fin de sa vie, il avait encore beaucoup d'influence, mais il a eu beaucoup d'influence sur Gilead à une époque, et on sait que Donald Rumsfeld, c'est celui qui a inventé les armes de destruction massive pour envahir l'Irak. On
exact.
Peut pas dire que ce soit,
mais c'est exact.
L'honnêteté
c'est...
même.
C'est ça.
Voilà. Mais si on veut comprendre l'histoire, tout le monde va s'énerver sur les Big Pharma, mais les Big Pharma, c'est des pantins. C'est comme les gouvernements. À qui appartiennent les Big Pharma? Elles appartiennent globalement à trois grands groupes d'investissement qui sont BlackRock, Vanguard et Street Asset, qui à trois, les Big Three, gouvernent 17 000 milliards de dollars sur le marché américain et mondial, 4% du CAC 40, et qui ont une nombre de... Voilà. Et en fait, ces gens-là décident. Alors, si vous rajoutez avec Sabine, si vous rajoutez les GAFAM, si vous rajoutez Soros, Rockefeller, etc., vous avez une poignée de personnes qui s'enrichissent honteusement pendant cette crise et qui n'ont pas du tout envie que ça s'arrête. Ce que j'ai envie de dire à tous les auditeurs, si vous aviez gagné 100 milliards de dollars en un an, est-ce que vous auriez envie que ça s'arrête ? Ben non. Je ne dis pas que c'est bien, mais ce serait compréhensible. Voilà, donc à qui ça appartient ? Ça appartient à ces gens-là. Il ne faut pas être naïf, hein, en fait. Je pense que malheureusement, dans cette crise, il n'y a plus grand-chose de scientifique. On a d'un côté une idéologie vaccinale, alors que les vaccins, ça nécessite... Et je ne suis pas du tout anti-vax. Je pense qu'on est en train de détruire la crédibilité des vaccins en faisant ce genre de choses-là, et je trouve ça dramatique. Voilà, il y a une sorte de course, et on n'est plus dans un problématique scientifique, on est dans un problématique de business. Il faudrait s'en rendre compte. Voilà.
Docteur Soulier, vous êtes très impliqué dans la réinformation, entre autres sur le Covid. Là, on fait de la réinformation et on va s'arrêter là d'ailleurs. Mais on n'ira pas au-delà de la réinformation, on est sur une radio périphérique. Par contre, moi j'aimerais savoir, est-ce que actuellement, Réinfo Covid, ça fait quand même plus d'un an que vous êtes sur la brèche, quels sont les, à part un conseil scientifique indépendant, à part des conférences et des réunions que vous faites de temps en temps, qu'est-ce que vous allez mettre en place qu'est-ce que vous avez mis en place pour permettre aujourd'hui, bon, je ne dirais pas le consentement éclairé, ça c'est de l'information, mais est-ce que, par exemple, on a en filigrane de cette émission, il y a évidemment que l'imposture et l'illégitimité des vaccins en phase 3, c'est qu'il y a des traitements qui sont parfaitement adaptés à cette maladie. Qu'est-ce que fait Réinfo Covid aujourd'hui, docteur Soulier, pratiquement, concrètement, pour l'ensemble des Français qui voudraient eh bien accéder à une autre information et puis à une autre médecine que celle qui nous est imposée?
Alors, Réinfo Covid, c'est pas un an, c'est uniquement 7 mois et demi, 8 mois. Réinfo Covid, ça a commencé en octobre. Hein, ça a été lancé fin septembre, ça a commencé en octobre. Et donc, en 7 mois, c'est plus de 100 000 personnes qui sont actives. Je vous rappelle que Réinfo Covid fonctionne totalement sans argent, des bénévoles. C'est plus de 6 000 médecins et soignants. C'est des collectifs de citoyens un petit peu partout qui aident, qui réenseignent. Notre objectif, c'est de faire sortir de la peur dans laquelle on essaye d'enfermer, d'essayer de montrer qu'il y a une autre vision, qu'il y a une autre possibilité, et dans le même temps, de montrer justement tout l'intérêt des autres traitements. Et on est en train de mettre en place des techniques de soins pour pouvoir aider, désaturer les hôpitaux pour la future vague qui est en préparation dans les dossiers des ministères, à défaut d'être une réalité scientifique. Voilà. Donc il y a une action très profonde. Quand on regarde en France, il y a d'autres groupes. L'AMCIB sort grâce à Vincent des éléments scientifiques d'une qualité extraordinaire. Il y a aussi Bon Sens, il y a aussi Réaction 19, il y a aussi les 100 médecins prescrits. Mais Réinfo Covid est le groupe qui a le plus d'implantations dans les territoires, avec un nombre de collectifs de citoyens, pour redonner confiance. Voilà, il y a une action de fond profonde. Et puis, Réinfo Covid essaye aussi, dans d'autres éléments comme Réinfo Santé, par exemple, d'ouvrir à d'autres possibilités. Voilà, donc, il y a une sorte... C'est intéressant parce que cette crise amène énormément de personnes à se reposer la question de comment voir la médecine, de comment voir la vie, de comment traverser cette crise qui est un spasme d'un système ancien, un peu délirant, qui lutte à tout prix pour essayer de se maintenir à travers différentes technologies et de transhumanisme qui ont peur de la mort. Et nous essayons de dire non, n'ayez pas peur, il y a d'autres moyens. Vous pouvez sortir de la peur, essayer de transformer la colère en courage, essayer de transformer la peur en prudence, essayons de voir le monde autrement, et le travail de Réinfo depuis 8 mois est absolument considérable.
Une question plus personnelle, docteur Soulier, Olivier, ça fait un moment maintenant qu'on se connaît et que vous faites des émissions sur Radio Courtoisie. Si vous aviez, lorsque la première fois que nous nous sommes rencontrés, est-ce que vous auriez pu imaginer une seconde ce qui est en train de se passer aujourd'hui ?
Oui, je pense que c'est, c'est absolument fou ce qui se passe. C'est vrai que les homéopathes, on a l'habitude d'être attaqués depuis 30 ans, 40 ans. Et
oui.
Moi, j'ai vu des confrères être mis en prison. Je me souviens, mon maître qui avait été mis en prison pendant un mois pour finalement être totalement blanchi 10 ans après. Et il est mort d'un cancer peu de temps après. Donc, les homéopathes ont l'habitude d'être attaqués. Ouais. Et d'un côté, j'ai envie de dire, mais vous voyez, la médecine classique, l'allopathie, est confrontée à la même problématique de la surinfluence de l'industrie pharmaceutique et du business que l'homéopathie a été en contact. Je dirais que vous vous souvenez de l'histoire des canaris dans les mines qui étaient sensibles au grisou et qui mouraient avant les autres. Je dirais que les homéopathes ont été les canaris des victimes de Big Pharma. Mais aujourd'hui, ça... Alors je dirais que je pensais pas quand même qu'il irait.
C'est concomitant. C'est quand même concomitant. On peut pas nier le fait qu'il est concomitant. L'attaque depuis le début du quinquennat Macron. D'abord, ça a été les 11 vaccins. Après, ça a été l'attaque généralisée sur l'homéopathie et qui ont précédé dans les deux cas la pandémie et la façon dont ça a été traité.
Voilà. Et je voudrais faire aussi élargir un petit peu le débat et faire un lien entre autre chose, parce qu'on a beaucoup parlé du réchauffement climatique. Mais si vous prenez d'un côté le bénéfice extraordinaire des big fonds d'investissement, vous avez deux choses qui dépendent de leurs actions, qui sont des actions qui sont uniquement argent et qui se foutent complètement à la fois de la planète et de la santé humaine. C'est le réchauffement climatique qui est fait par les marchés, entre guillemets, qui sont gérés par ces big three, et de l'autre côté, la pandémie qui est, si pas générée, au moins largement utilisée et orchestrée dans ces suites pour faire de l'argent. Donc on a les mêmes, si on remonte encore plus haut, on a les mêmes tout en haut, qui se foutent complètement du climat et qui dérèglent tout. Vous avez vu ce qui s'est passé au Canada, 49,6 degrés, on ne peut pas vivre longtemps à ce niveau-là. On avait 150 morts par jour. Et de l'autre côté, on a l'histoire de la pandémie. Essayons de nous élever et de voir ce qui se passe et de voir les choses sur le fond. Voilà. Donc, mais effectivement, je ne pensais pas qu'ils iraient aussi loin et aussi vite. C'est un peu effrayant. Je veux dire qu'aujourd'hui, l'humanité, à mon avis, court un des plus grands risques d'extinction à tous les niveaux et par différents moyens, que ce soit de maladies, de manipulations ou de réchauffement climatique, un des plus grands périls depuis qu'elle existe. Voilà ce que je pourrais dire pour conclure mon intervention, puisque je vais devoir vous laisser.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, docteur Soulier. On se retrouve dans 4 semaines pour revenir sur la médecine du sens. Et d'ici là, eh bien, écoutez, une excellente soirée à vous, docteur Soulier. Merci à vous. Je reviens à des questions d'auditeurs et avant d'accueillir nos deux derniers invités que sont les docteurs Nicole et Gérard Delépine que je vais, on n'a pas besoin de les présenter sur Radio Courtoisie mais je vais quand même le faire, une ou deux questions auxquelles pourraient répondre peut-être nos invités de la première heure et demie dont l'un est d'ailleurs le fil rouge de cette émission, c'est le docteur Reliquet et je tenais à le remercier de la façon la plus chaleureuse qui soit pour tout le travail qui a été fourni et les échanges que nous avons eus pour préparer cette émission. Cette émission n'aurait pas cette qualité aujourd'hui s'il n'y avait pas eu le docteur Reliquet derrière pour travailler avec moi et sur le choix des invités. Une question vraiment, je dirais, docteur Reliquet, et puis peut-être aussi la réponse du docteur M. Lille. Je trouve très poignante, cette question d'un auditeur. Ma fille, alors elle nous remercie pour l'excellence de cette émission. Et cette auditrice, pardon, nous dit ma fille interne en médecine doit encore étudiante, a été obligée de se faire vacciner au mois de janvier avec AstraZeneca. Et si elle refusait, elle ne pouvait pas terminer ses études. Qu'en est-il donc de tous les étudiants en médecine et pharmacie? Doit-on laisser faire? D'abord, docteur Reliquet, puis après, docteur Hamdil.
Écoutez, c'est catastrophique. Vous comprenez bien qu'ils sont entre le marteau et l'enclume. Ils ont travaillé comme des bêtes pendant des années pour arriver à un niveau qui leur permette enfin d'être médecins. Et tout d'un coup, et vous avez bien compris que réglementairement, c'est absolument... C'est absolument incroyable qu'on puisse pousser un jeune à pratiquer une vaccination qui n'est pas obligatoire. Sur le plan réglementaire, ça n'est toujours pas obligatoire. On a eu pendant quelques jours un effroi généralisé à Nantes parce qu'un gamin de quatrième année est décédé tout seul dans sa pauvre petite chambre d'étudiant sans même avoir eu la possibilité de parler, de téléphoner aux urgences. Et puis ça s'est vite arrêté. Et puis, dès le lendemain, on a dit qu'on allait changer de vaccin et qu'on allait changer de produit parce que, voilà, et plus rien ne se passera chez les jeunes. Vincent Parent vous a bien expliqué que chez les jeunes, il se passe des effets secondaires graves. Donc, oui, je suis en colère parce que on sait très bien que ces gamins-là, ces étudiants en médecine et ces internes, n'ont évidemment aucune chance de déclarer un Covid sévère, sauf s'ils ont une pathologie particulière ou préalable. Et d'un. Deux, on n'a absolument aucune certitude, ni même début de preuve, que la contagiosité passe par les soignants, donc ça c'est et qu'un soignant vacciné pourrait cesser de propager du virus. C'est tout ça. Tant qu'on ne les aura pas, il me paraît scandaleux, voire plus, de piquer ces gamins. Je vous rappelle que ça a été une histoire qui maintenant n'intéresse plus grand monde, mais il y a l'obligation vaccinale pour l'hépatite B, et à une époque, j'avais travaillé avec l'ancien expert qui s'appelait Marc Girard, qui s'était saisi du problème de l'hépatite B obligatoire chez les soignants et de la campagne vaccinale de l'hépatite B dans les écoles. Les résultats étaient consternants, ça a été à nouveau écrasé, on a toujours dit qu'il n'y avait pas de responsabilité du virus de l'hépatite B dans les pathologies type sclérose en plaques chez les jeunes soignants. Je sens qu'on va nous refaire le même coup si jamais il y a à nouveau une vague d'effets indésirables graves chez les soignants. C'est évident.
Docteur Reliquet, docteur Hamdil, qu'est-ce que des étudiants en médecine à qui on explique il faut se faire vacciner et puis tout de suite, hein, parce que sinon c'est le bénéfice de tes années d'études que tu perds et c'est fini. Vous qui êtes, en plus d'être un pharmacien et un docteur en pharmacie, aussi un journaliste, qu'est-ce que vous leur conseilleriez aujourd'hui à tout ce corps soignant à qui on est en train de mettre un compte à rebours pour peut-être, au début on disait septembre, et puis maintenant la folie gagnant l'ensemble des sphères du pouvoir fin juillet peut-être. Qu'est-ce qui concrètement on peut faire aujourd'hui quand on est dans ce corps médical? Et je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'ils ne se fassent et que nous ne nous fassions aucune illusion. Aujourd'hui, c'est le corps soignant qui est sur la brèche, qui est en première ligne. Demain, ce sera nous, chacun d'entre nous, et ils viendront nous chercher les uns après les autres pour nous piquer, pour nous vacciner. Qu'est-ce que le corps médical peut répondre aujourd'hui, d'après vous, docteur Hamdil, à ces oukases de vaccination?
D'abord, c'est invraisemblable qu'on oblige une personne de se vacciner alors que la vaccination est facultative et qu'elle n'est pas obligatoire. Et j'ai reçu de nombreux témoignages qui vont dans ce sens. Ce n'est pas le premier, malheureusement. Alors, moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein, c'est on veut les pousser à se vacciner elles-mêmes. C'est-à-dire, on est en train de leur extirper leur consentement par la contrainte. Cette contrainte n'est pas légale. Elle est même condamnable. et peut-être même ça pourrait avoir des poursuites, juridiques notamment. Les conseils, moi ce que j'ai envie de leur dire, c'est que pour que l'obligation, d'abord, ils ne peuvent pas leur interdire de s'inscrire à la fac, parce que l'obligation, elle a des critères. Je vous rappelle que déjà, là, c'est une AMM temporaire conditionnelle, et que on ne sait pas ce que ça va donner. Ensuite, je vous rappelle l'exemple de la vaccination contre la grippe, que tous les ans, on était menacés que pour les personnes qui n'étaient pas vaccinées, qu'ils allaient la rendre ça obligatoire. Ils ont juste oublié de dire que cette vaccination contre la grippe était obligatoire au milieu des années 2000, je crois que c'était vers 2004-2005, et que sur avis du Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative, cette obligation a été levée. Et vous savez pourquoi elle a été levée? C'est parce que ils ont estimé qu'il n'y avait pas de bénéfice individuel de protection suffisant. Donc, il y a des critères pour rendre une vaccination obligatoire, ce sont des critères juridiques, qu'on peut résumer en trois éléments. D'abord, il faut qu'on démontre une utilité de la vaccination. Donc, on en a parlé dans la première partie, donc empêcher la transmission et un rapport et une efficacité, un bénéfice individuel suffisant. Je vous rappelle que la COVID-19 n'est même pas inscrite sur la liste des maladies à déclaration obligatoire, contrairement à la tuberculose, par exemple. Et pour être inscrit sur la maladie...
Ça, c'est incroyable ce que vous dites là.
Non mais attendez, je vais revenir là-dessus, il ne faut pas que j'oublie s'il vous plaît. Je termine sur les critères de l'obligation, donc l'utilité s'apprécie en fonction de la gravité de la maladie, ce qu'on risque, et donc je laisse les spécialistes vous dire le taux de mortalité et de létalité lié à la Covid. Ensuite, il y a le critère de rapport bénéfice-risque qui doit être démontré, c'est-à-dire le bénéfice doit être supérieur au risque, dans une tranche de population, par tranche d'âge. Et puis, le dernier critère qui est très important pour un juge, c'est le critère de proportionnalité. C'est-à-dire, le critère de proportionnalité, c'est, on résume ça, c'est l'intensité de la mesure par rapport au but qu'on poursuit. Et clairement, vacciner toute la population de façon massive est disproportionné. Voilà. Donc, notamment chez les enfants. Voilà, on ne peut pas vacciner tout le monde sans tenir compte des contre-indications individuelles, etc. Ce n'est pas possible. L'autre, donc là, il me semble que les critères juridiques de l'obligation ne sont pas remplis, et je pense même que s'ils étaient sûrs de leurs éléments, de leurs preuves, pensez-vous réellement qu'avec une pandémie qui a semé le trouble dans le monde entier, pensez-vous qu'ils n'auraient pas déjà rendu cette obligation obligatoire dès le départ? Donc ça, c'est une question.
Évidemment.
Et donc, j'ai l'impression qu'on veut pousser, donc ce sont des menaces, on veut pousser les gens à se vacciner elles-mêmes de façon volontaire.
Oui.
Et par la peur, en les menaçant par ce genre de choses, du chantage, des menaces, des intimidations.
C'est ça.
Ce qu'ils appellent encouragement, incitation, c'est ce qui est derrière ça, c'est carrément de la violence.
Violent. Hein.
C'est violent. Voilà. Et c'est invraisemblable qu'on oppose un jeune de se vacciner en le menaçant de la sorte. Et je vous rappelle, donc je reviens sur le point de on impose à tout le monde un passeport sanitaire, qui porte atteinte à des libertés fondamentales, hein, c'est pas rien. Et donc, si vous voulez, les maladies à déclaration obligatoire, il y a une liste. Cette liste, une maladie intègre cette liste lorsqu'elle est grave et lorsqu'elle est contagieuse.
Oui.
Et le troisième élément, lorsqu'on a un test de diagnostic fiable.
Fiable.
Donc il faut que ce soit grave, il faut que ce soit contagieux, et il faut que le test de diagnostic de cette pathologie, de cette infection, soit fiable. Alors expliquez-moi pourquoi la Covid ne fait pas partie de cette liste. Les décrets qui ont établi cette liste datent, il y a deux listes en fait, datent du plus récent en 2018 et le plus ancien de 2012. Et depuis, ils n'ont pas subi de modification. Et dans cette liste, on trouve la tuberculose, par exemple.
Oui.
On trouve le chikungunya, on trouve la poliomyélite. Enfin, il y a plein de pathologies. Vous avez toute la liste sur le site du CETIAP. Vous allez la reprendre, c'est réglementaire. Et donc, on a des maladies qui sont sur la liste de déclaration obligatoire, on n'a pas de passe. Et là, on a un Covid qui n'est pas sur la liste, on installe un passe sanitaire qui ne repose sur aucune donnée scientifique vérifiée, et c'est très contestable juridiquement. Et puis de l'autre côté aussi, vous avez un vaccin contre la grippe qui a une AMM normale, standard, pour lequel on ne peut pas le rendre obligatoire, selon le Conseil d'État. Et puis là, on a une AMM temporaire conditionnelle, et on veut la rendre obligatoire. Écoutez, moi j'ai envie de dire qu'on est en train de perdre notre latin, là, parce que, et peut-être avec tous leurs variants, etc., peut-être qu'ils ont envie qu'on, je sais pas moi, qu'on révise notre alphabet grec, je sais pas ce qu'ils font, mais en tout cas, j'ai l'impression que nous sommes rentrés dans une ère que l'on pourrait qualifier de post-science et de post-droit, et que ce que vous avez dit au départ, c'est très inquiétant, et lorsque... Dans une société, les rapports entre les individus ne sont plus régulés par le droit, eh bien, je crains fort que l'on puisse se diriger eh bien, vers une menace de la paix sociale. Et ça, vous l'avez très bien dit au départ.
Merci beaucoup, docteur Emlil. Je vais donner maintenant la parole à Nicole et à Gérard de Lépine. Juste auparavant, un auditeur qui me reproche de ne parler que du sanitaire. Ce n'est pas acceptable, cher auditeur, de dire une chose pareille. Et j'ai, au travers des invités tels que Pierre Barnérias, tels que David Piquet, tels que Philippe Guillemont, évoquer aussi ces problématiques de ce que pourrait être, entre autres avec Davos, et pas seulement, on pourrait en parler avec aujourd'hui Facebook, qui est en train de travailler, et nous allons avoir apparaître prochainement une crypto-monnaie qui va donner une autre résonance et une autre perspective à tout ce qui se passe et à la façon dont les réseaux sociaux aujourd'hui censurent toutes les questions liées à cette pandémie. D'ailleurs, c'est peut-être le moment de dire toute l'importance, chers auditeurs, de votre radio, de Radio Courtoisie. On sait bien toutes les difficultés, toutes les censures qui ont pu subir votre radio sur un certain nombre de sujets. Néanmoins, eh bien, cette nouvelle Eldorado que sont les réseaux sociaux, et on nous avait expliqué, bah, il faut aller sur les réseaux sociaux, comme ça on peut dire ce qu'on veut. Ben non, c'est pas si simple. Aujourd'hui, les radios périphériques, au moins sur la question de la pandémie, peuvent dire un certain nombre de choses que nous ne pouvons pas dire sur les réseaux sociaux. Regardez Alexandra Orion-Code, elle ne peut pas faire une émission sur Internet sans être immédiatement censurée. Eh bien, elle est invitée par un certain nombre de patrons d'émissions et même si les médias mainstream ont des migraines et des maux de tête et des grincements de dents quand ils l'entendent, eh bien, ils sont bien obligés de l'entendre. Chers auditeurs, je vous le redis aujourd'hui, vous avez eu un message qui est passé durant la pause de cette émission, il faut aider votre radio parce qu'une émission de 3 heures comme ça qui va toucher autant de personnes, des dizaines, des centaines de milliers de personnes, vous n'avez pas l'équivalent aujourd'hui, à mon avis, en France. Donc aidez cette radio et vous vous rendrez compte combien et cette liberté qui est la nôtre peut s'exprimer. Et c'est une chance exceptionnelle et j'en remercie encore les actuels dirigeants de Radio Courtoisie. Alors non, je suis désolé, nous parlons aussi de ces différents éléments, chers auditeurs. Un autre auditeur écoute avec une grande acuité cette émission, parce que on avait notre auditrice qui avait un de ses enfants en médecine et à qui on avait imposé AstraZeneca, imaginez dans l'armée. Imaginez tous ces parents qui savent que leurs enfants, eh bien, on les oblige aujourd'hui à se vacciner. Allez, on passe maintenant à cette dernière partie. On a encore 50 minutes pour évoquer, je dirais, le monde et pas seulement la France, avec Nicole et Gérard de Lépine. Vous êtes parmi nous
Oui, bonjour. On vous remercie tous les deux et puis surtout vos intervenants qui nous ont appris beaucoup de choses. On a beau travailler là-dessus depuis un an et demi, il y a encore plein de choses à connaître et donc on les remercie très fortement.
Et vous allez nous apprendre ce soir encore énormément de choses. Donc je vais très vite me taire et vous entendre et vous écouter. Mais d'abord vous présenter, même si vous n'êtes plus à présenter sur Radio Courtoisie. Docteur de Lépine, eh bien vous êtes né en 1946. Vous êtes mère de deux enfants, Vous avez soutenu un doctorat de médecine devant la faculté de Saint-Antoine de Paris en 1973. Vous avez été médecin hospitalier à temps plein. Vous battez depuis 20 ans pour améliorer les prises en charge des malades. Longtemps, c'était le cas du cancer. Vous êtes un directeur, un chef de service à l'hôpital de Garches. Donc, c'est dire toute l'expérience et donc toute l'expertise qui est la vôtre. Gérard Delépine, vous êtes chirurgien orthopédique, oncologue et statisticien. Et Dieu sait comme les statistiques ont pris le pas sur beaucoup de choses durant cette crise et depuis un an et demi. Et vous allez pouvoir, docteur Gérard Delépine aussi, remettre un certain nombre de choses en place. Eh bien, l'un comme l'autre, docteur Nicole et docteur Gérard Delépine, vous êtes aujourd'hui des personnes qui sont en première ligne dans la réinformation sur cette pandémie. Alors, qui veut commencer? Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'avais une première question très concrète à vous poser. C'est sur le plan statistique. On a entendu un certain nombre de choses ce soir. J'ai dit à un moment donné qu'on allait parler de l'Inde. Alors, mais vous n'êtes pas obligé de commencer tout de suite sur ce qui s'est passé en Inde et dont on a vu hein, les médias nous en parler avec des choses atroces. On a vu, alors que on sait les médias si. Si fébrile dès qu'il est question de montrer un certain nombre d'images, autant là on nous a montré des corps qu'on brûlait parce qu'on ne trouvait plus d'endroit pour. Alors évidemment c'est ce qui est normal d'ailleurs parce qu'en Inde on brûle en général les morts plus qu'on ne les enterre. On parlera de l'Inde et donc du fameux variant Delta tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez par rapport à ce que vous avez entendu sur les éléments statistiques de majeur à dire tout de suite aux auditeurs de Radio Courtoisie?
Oh, je n'ai pas grand-chose, alors.
Gérard Delépine, docteur Delépine.
Oui, pour les statistiques, évidemment, c'est moi qui prends la parole. Donc, à propos de ce que j'ai entendu, c'était parfait. La démonstration était très bonne. Effectivement, nous sommes dans les mains, et tous les ennuis que nous avons eus datent du rapport 9 de l'Imperial College et de Ferguson.
Oui.
Je rappelle que ce rapport a été caché pendant 15 jours à 3 semaines, après le confinement. Ce n'est qu'après qu'on a pu le lire. Et ce n'est qu'après qu'on a pu se rendre compte qu'il reposait sur rien, sauf sur une prédiction d'un grand mage qui croit tout savoir et qui donne la parole de Dieu et qui, comme tous les prophètes, menace du pire si on ne suit pas sa voix. Oui. Et donc, il nous a dit, alors que ce type n'a aucune connaissance en médecine, hein, il nous a dit, si vous ne confinez pas, si vous enfermez pas les gens chez eux, vous allez avoir 500 000 morts en Grande-Bretagne comme en France. Et ça ne reposait sur rien. Et ce qui était terrible, c'est qu'il allait à l'encontre absolument de toutes les connaissances qu'on avait en médecine. Nous, on a écrit dès le deuxième jour du confinement, ce n'est pas de confinement dont les Français ont besoin, mais de masques et de chloroquine. Hein, à l'époque, c'était effectivement le cas. Lui, il disait non, si vous utilisez les méthodes classiques de lutte contre les épidémies sans traitement, c'est-à-dire la quarantaine, depuis toujours, les médecins, quand ils avaient une maladie pour laquelle ils n'avaient pas de traitement, ils séparaient les malades des gens sains. Ils mettaient les malades en quarantaine pour la peste, et puis selon la durée de la phase contaminante, avec des durées variables pour les autres maladies. Évidemment. Et bien là, il est là au contraire. Il a prétendu dans son rapport 9 que si on faisait ça, on ne contrôlerait pas l'épidémie, que les hôpitaux seraient débordés, que les gens mourraient sur les trottoirs. C'est ce qu'il a mis dans son rapport. Et d'emblée, il a dit il faut enfermer tout le monde et les relâcher de temps en temps parce qu'ils ne pourront pas vivre totalement. Et il faudra continuer parce qu'il y aura d'autres vagues. Et à chaque vague, il faudra les enfermer. Et les enfermer jusqu'en décembre 2021. C'est prévu dans le rapport 9. Et il a dit jusqu'à l'arrivée d'un vaccin ou d'un traitement miracle. Alors le traitement miracle, c'était le remdesivir, hein.
Oui.
Oui, c'était ça. Et le vaccin, c'était effectivement le Pfizer qui était le premier sur les rangs. Donc tout était prévu d'emblée, tout est écrit. Tout le monde peut lire le rapport 9 actuellement, Report 9, hein, de l'Imperial College. Donc ce qu'on nous impose a été prévu d'emblée. Et alors, ce qui est terrible, c'est que, et bien entendu, lui, il a sorti un des très beaux papiers après à toute son équipe, et bien entendu, ses élèves français, qui sont représentés à l'Institut de Pasteur par Cochenez et qui est l'inspirateur de l'application de ce texte qui nous a tellement nui. Parce que ce qui me désole dans votre information, c'est que vous dites les troubles majeurs dus à la maladie. C'est pas vrai. Tout ce qui est majeur comme trouble dans notre société, c'est pas dû à la maladie, c'est dû aux mesures qu'on nous a imposées. Hein ? Si on n'avait pas fermé tout le monde, il n'y aurait pas eu une augmentation de la famine en Afrique, avec plusieurs centaines de milliers de morts prévues par le Fonds alimentaire international et l'ONU. Hein, ça a été écrit. Il n'y aurait pas eu une chute brutale du produit national dans tous les pays qui ont appliqué le confinement de manière bête. Et on aurait eu beaucoup moins de pauvres, puisqu'on a créé des pauvres. Quant aux séquelles sur les enfants, ça a été absolument diabolique. Hein. On sait très bien que l'arrêt de l'école, qui n'était absolument pas nécessaire, car personne n'a pu montrer que ça avait le moindre intérêt de fermer les écoles. Hein. On avait le rapport 9 avait appliqué le même système qu'à la grippe. Dans la grippe, effectivement, les enfants sont des vecteurs de propagation de la maladie. Mais pas du tout dans le coronavirus. Alors, au début, on pouvait ne pas le savoir et on croyait, comme c'était une maladie respiratoire, que ça pouvait passer par là. Mais au bout de 3 mois, on savait très bien que les enfants ne contaminent pas. Toute la littérature, je me suis payé les 2000 articles sur enfants transmission Covid, actuellement c'est ce qu'il y a sur PubMed, il n'y a aucun article sérieux qui démontre qu'un enfant ait contaminé quelqu'un. Il y a plein d'articles qui disent « attention, les enfants sont dangereux ». Ils sont toujours écrits au conditionnel. Et bien entendu, la presse mainstream fait disparaître le conditionnel et dit cet article démontre que c'est pas vrai du tout. L'auteur de l'article dit il y a une charge virale importante chez l'enfant, aussi, presque aussi importante que l'adulte, donc il pourrait contaminer. Et c'est traduit dans tous nos journaux, l'enfant contamine. C'est faux. J'affirme ici solennellement qu'il n'y a aucune étude épidémiologique qui ait démontré qu'un enfant ait pu contaminer quelqu'un d'autre.
Gérard de Lépine, rentrons dans des éléments concrets. C'est ce qui fait, je pense, depuis le début, la qualité de cette émission. Un auditeur, cette émission est absolument remarquable et je vous en remercie. Je vais, en plus de l'achat du CD, faire un don pour vous aider. Merci. Donc, je veux qu'on reste dans le concret, dans le factuel, Gérard et Nicole de Lépine. C'est-à-dire, nous avons pu parler avant cette émission, entre autres, de ce qui s'est passé en Inde, de ce qui est arrivé avant le fameux variant, soi-disant variant Delta. J'aimerais, parce que ça, c'est l'actualité immédiate, et je suis désolé de le dire, cette actualité immédiate, il faut la traiter sur Radio Courtoisie et alerter. Est-ce que l'un ou l'autre pourrait nous expliquer cette immense manipulation que nous connaissons aujourd'hui avec le variant Delta, depuis la Genèse sur ce qui s'est passé en Inde, pourquoi d'ailleurs il y a eu un variant, parce qu'on ne nous explique jamais pourquoi il y a des variants, hein, pourquoi tout d'un coup ça apparaît un petit peu, c'est pour des gens qui ne croient ni en Dieu ni dans le diable, c'est tout nous tombe dessus un petit peu comme le ciel sur la tête de Vercingétorix, c'est des Gaulois. Est-ce qu'on pourrait m'expliquer un peu la situation en Inde aujourd'hui, soit Nicole, soit Gérard de Lépine?
Non, ben, je le ferai avec plaisir, parce que effectivement, j'ai particulièrement étudié la question. Rappelez que l'Inde est un immense pays qui est 20 fois grand comme la France par sa population. Hein. Oui. 1,3 milliard habitants. Donc 300 millions d'habitants, 1,3 milliard. Donc 20 fois la France. Que ce pays a remarquablement géré la crise du Covid, alors qu'il a des hôpitaux dans un état effroyable, que les gens sont pauvres, qui sont mal nourris. Bon, il n'y a pas trop d'abeilles chez eux, c'est vrai. Mais donc c'est un pays qui est dans des conditions effroyables. Et il faut savoir qu'avant la vaccination, ils avaient 12 fois moins de morts par million d'habitants que nous.
Oui.
12 fois moins.
Quand et même.
Pourquoi ? Parce que vraisemblablement, l'Inde ne devait pas être assez riche pour le vaccin Pfizer et que la corruption n'a pas été aussi intense chez eux. Et quand, en particulier, il y a eu le fameux Lancet, cet article pourri, forgé, menteur sur la toxicité alléguée de la chloroquine, hein, le comité indien du Covid, c'était le Covid Task Force, a décidé que cet article ne valait rien et qu'eux, ils avaient des données qui leur permettaient de dire que la chloroquine était efficace. Et ils ont d'emblée, donc en avril 2020, ils ont d'emblée dit qu'il faut donner la chloroquine non seulement à titre curatif, pour des gens qui ont déjà les signes, mais aussi à titre préventif. Et ils ont protégé en priorité le corps sanitaire et aussi les familles dans lesquelles il y avait un malade, en se disant « tant qu'on est malade, il faut absolument éviter que la maladie se transfère et donc on donne la chloroquine ». Et grâce à ces mesures de traitement précoce, tellement précoce même qu'il était préventif chez les soignants, ils ont réussi à avoir 12 fois moins de morts que nous de Covid.
Oui, oui.
Et puis, malheureusement, sous la pression internationale, sous la pression du représentant local de l'OMS,
oui.
ils se sont fait avoir et ils ont accepté de vacciner une partie de leur population. Et donc, ils ont vacciné et... Deux mois après la vaccination, est apparue une flambée brutale de maladies. Ah oui, les courbes de l'OMS, tout le monde peut les regarder. Hein. Vous tapez sur OMS Covid Dashboard et vous avez après, vous choisissez le pays, vous avez tout le résultat. Et je rappelle que ce site est en français aussi. Hein. Il est en anglais, bien entendu, mais le français est également mis. Donc c'est facile à voir. Donc vous avez la courbe.
Et sur Nouveau Monde, il y a l'article sur l'Inde.
Docteur Nicole Delépine, allez-y, c'est votre tour.
Non, je veux juste préciser que si les auditeurs veulent voir les courbes, elles sont sur l'article de Gérard qui est sur nouveau-monde.ca, comme Canada.
Hein, Gérard, nous vous écoutons, continuez.
Donc, deux mois après l'instauration du vaccin en Inde, est apparue donc une vague qui a fait les gorges chaudes de tous nos médias, où on nous a montré les Indiens qui mouraient, qu'on brûlait, bah oui, c'était effectivement une tradition quand même locale. Et l'épidémie paraissait incontrôlable. C'est ce que disaient d'ailleurs tous les médias.
Absolument.
Et alors là, le groupe de la Task Force indienne s'est réuni à nouveau et on a dit, bon, il faut arrêter la vaccination, premièrement. Deuxièmement, il faut recommencer avec les traitements précoces. Et en plus de la chloroquine, ils ont rajouté l'ivermectine.
Oui.
Et en 5 jours, je dis bien 5 jours après l'application de ces traitements, ils ont fourni un kit anti-Covid à leur population. 5 jours après, les contaminations ont chuté brutalement. Et 10 jours plus tard... c'est la mortalité qui s'est mise à chuter. Et ils avaient 12 fois moins de morts que nous. Actuellement, ils ont malheureusement seulement 8 fois moins de morts que nous. Mais ils restent quand même à 8 fois moins de morts.
Mais alors, toujours 8 fois moins de morts, Gérard Delépine. Je reviens vers vous tout de suite parce que j'aimerais aussi qu'on fasse un sort une fois pour toutes au cas d'Israël. On nous explique sur toutes les chaînes d'info, même les chaînes d'info aujourd'hui soi-disant alternatives, combien Israël a réussi sa politique vaccinale. Mais d'abord, j'aimerais avoir juste un moment le docteur Reliquet sur cette personne de l'OMS et que vous puissiez nous dire un peu ce que risque cette personne et pourquoi. Docteur Reliquet. Ah là, là, on a un problème, à mon avis, avec le studio virtuel. J'espère que ça va passer. Oui, allô, oui, je vous écoute.
Vous m'entendez ?
Oui, voilà.
Là, je me garderai bien de faire de la politique fiction, de la politique judiciaire fiction, en plus, sur l'Inde. Il faut savoir que ça barde très fort en Inde. Parce que vous avez des avocats, comme en Europe, ou même aux USA, qui sont vent debout devant la gestion absolument cataclysmique et, Gérard l'a dit, évidemment, complètement sous le joug des industriels du vaccin. Donc certains de l'association du barreau indien ont demandé à ce qu'on traduise la responsable locale de l'OMS, qui est une femme indienne, qui particulièrement s'est illustrée en réclamant qu'on arrête d'achalander les populations en ivermectine, parce que le jour où un des États indiens, le Tamil Nadu, a interrompu les traitements par ivermectine, on a revu une flambée de Covid et une flambée de décès. Donc ces avocats réclament la peine de mort contre cette brave dame. Et ils y vont pas de main morte, elle s'appelle Madame Swaminathan, et ils réclament aussi la mort ou la prison à vie pour le président de l'OMS. Donc, Donc vous voyez, on est parfois, alors en France, on est les vilains petits canards, les gens, les complotistes, et oui. Puis dans d'autres pays, on serait plutôt des héros. Donc voilà, moi je dois juste vous dire, j'ai oublié de vous dire, que tout à l'heure on parlait de cette histoire de responsabilité médico-légale des médecins qui vaccinaient leurs patients. J'ai eu quelques échanges d'articles avec un président de conseil départemental. J'ai eu une plainte qui m'est arrivée en lettre commandée jeudi dernier. Voilà, voilà la réponse. Je laisse Gérard continuer, mais voilà, donc cette dame, Swami Nathan, est peut-être finira par mourir ou est enfermée à vie pour son comportement anti-ivermectine.
Merci docteur Ruliquet pour ce courage qui vous anime depuis le début de cette crise, parce que, et ça je veux le répéter pour les auditeurs de Radio Courtoisie, il y a un conseil de l'ordre, ça les médecins ne peuvent pas vous le dire, mais il y a un conseil de l'ordre qui fut d'ailleurs créé à l'époque de Vichy, qui est impitoyable avec les médecins. Alors vous avez des directeurs de recherche de l'INSERM, soit en retraite, soit qui n'ont jamais été des médecins pour d'autres, qui sont des stars des médias aujourd'hui, ils ne risquent rien. Rares sont ceux des médecins qui aujourd'hui, alors évidemment il y a le professeur Raoult, hein, et ça c'est le cas tout à fait inverse, mais il faut vous dire, il faut rappeler le courage du docteur Ruliquet qui aujourd'hui prend des coups et des plaintes, et le conseil de l'ordre est là, semble-t-il, avec une oreille très bienveillante vis-à-vis de l'ensemble de ces plaintes, et il faut soutenir évidemment ces médecins, sans eux il n'y aurait aucune réinformation aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment tellement important. Je reviens vers vous deux, tous les deux docteurs, tous les deux médecins, hein, Gérard et Nicole de Lépine. Et j'aimerais que vous nous parliez un petit peu du cas israélien. Ça nous a été, depuis plusieurs mois, on nous explique qu'Israël est un pays qui, dès l'origine, d'ailleurs, a acheté 2-3 fois plus cher un certain nombre de doses de vaccins et serait... par miracle, un pays qui serait sorti de la contamination. Et puis on apprend aussi, donc une information qui fait douter de tout cela, c'est que 40% au moins de ceux qui sont aujourd'hui vaccinés sont infectés à nouveau. Plutôt 40% de ceux qui sont infectés aujourd'hui du variant dit Delta sont des personnes vaccinées. Est-ce que je pourrais avoir tous les chiffres, docteur Nicole et Gérard de Lépine, sur ce point?
Oui, on l'a écrit plusieurs fois. Bon, ce qui s'est passé... en Israël, ça a été une opération politique. C'était à une période critique pour Benjamin Netanyahou. Il a voulu utiliser le vaccin pour se faire réélire. Bon. Et donc, il a accepté de Pfizer des conditions léonines, de payer effectivement plus cher, de donner tous les renseignements médicaux des Israéliens à Pfizer. Il n'existe plus de ce vaccin en Israël, en tout cas pour le Covid. Et il a su, grâce à ça, eu ses vaccins. Il a usé de tous les arguments contre la population israélienne qui s'est vaccinée. C'est ce qui se passe en France, c'est à peu près ce qui s'est passé là-bas, mais là-bas, c'est encore pire. Hein. Donc, c'est là où je dis résistons, parce que malgré tout ce qu'ils ont fait, il n'est pas arrivé à dépasser plus de 62% de la population vaccinée à une dose et à peu près 50% à deux doses. Donc, il a fait vraiment le maximum. Il a imposé le pass. Puis, comme le pass ne marchait pas, là, ils l'ont retiré en Israël. Donc, je pense que nous, Français, devraient quand même réfléchir à ce qui s'est passé ailleurs. Le PASS, on a bien dit que c'était stupide, mais c'est aussi démocratiquement impossible à tenir. Battons-nous contre le PASS, refusez d'aller dans tous les endroits où on demande un PASS, car le seul moyen de faire revenir à la raison les gens qui acceptent le PASS, c'est de les boycotter. Donc j'appelle là solennellement les gens à boycotter le pass, de manière à ce qu'on fasse comme en Israël, faire sauter le pass. Bon, alors ce qui s'est passé finalement, ce qui compte pour moi, pour les statistiques, c'est les chiffres. Et je me vais pour cela aux chiffres de l'OMS. Alors avant la vaccination, Israël avait 3000 morts de Covid déclarés. Depuis la vaccination, ils ont plus que doublé, ils sont à 6600 actuellement. Alors, ils avaient eu en 9 mois d'épidémie Covid, 3000 morts, et en trois mois post-vaccination, ils ont eu à nouveau 3200 morts. Donc, on parle de succès. C'est curieux. Au moins, un vaccin, ça doit empêcher les morts. C'est quand même le minimum. Hein.
Ah oui.
Or là, on a doublé le rythme. Et alors, il faut savoir qu'ils ont commencé à vacciner en décembre, que janvier et février 2021, donc les deux mois qui ont suivi, sont les mois records du nombre de contaminations. Ça a été multiplié par 3 par rapport au mois d'avant. Et de mortalité, où là, c'est vraiment considérable. Ils ont réussi effectivement à faire leurs 3000 morts en multipliant par 3 ou 4, selon moi, le nombre de morts mensuels qu'ils avaient auparavant. Alors, une fois que vous avez tué tous les vieux, enfin, les vieux à risque, il est logique que le taux de mortalité baisse, puisque les risques ont fortement diminué. D'autre part, le professeur Ben Israël, qui travaille à Tel Aviv, avait très bien en 2020, la cinétique de l'épidémie avait démontré que l'épidémie évoluait en gros en 6 à 8 semaines. Donc, en Israël, après la vaccination, ils ont eu une explosion d'épidémie. Mais cette épidémie, elle a fait comme les autres. Et au bout de 6 à 8 semaines, elle est descendue. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont eu apparemment une accalmie dans la mortalité et dans le taux d'infection. Et c'est là où tous les médias ont dit, voyez, Israël, c'est formidable, il n'y a plus de maladies, on a gagné. Sauf que ça, c'est faux. Si vous allez maintenant sur le site de l'OMS ou de Our World in Data, hein, et que vous faites Israël, vous verrez que l'épidémie repart à toute vitesse. Ah. Et à cause d'un variant. Alors, les variants... Le même phénomène se passe en Angleterre. Hein. En Angleterre, ils ont eu aussi une explosion de la mortalité et du nombre d'incidences après la vaccination, pendant environ deux mois et demi. Et ils ont eu une accalmie pendant deux mois. Et hop, en Angleterre, c'est reparti depuis un mois. Depuis un mois, ça monte. Et actuellement, le taux de nouvelles contaminations journalières est exactement le même qu'au pire pic de février 21. Donc, on ne peut pas dire... que l'épidémie a été contrôlée par le vaccin. Ça prouve aussi que ce qu'on retrouve maintenant, c'est figant des variants. Alors il faut bien comprendre ce que c'est que le Covid. C'est un virus à ARN. Tout le monde sait, enfin tous les médecins, pardon, savent que les virus à ARN se modifient spontanément très souvent. Vous avez un exemple que toute la population connaît, c'est la grippe. C'est aussi un virus à ARN. Chaque année, vous avez une nouvelle mouture. Vous avez un nouveau virus. Et la particularité de ce virus, c'est d'être parfaitement résistant au vaccin de l'année d'avant. Et on a la même chose avec le corona. Quand un variant apparaît, il est résistant au vaccin qui, entre nous, l'a créé. Parce que c'est la pression sur le virus qui le fait se transformer. Hein, c'est la loi de l'évolution Darwin. Hein. C'est comme pour les antibiotiques. Quand vous donnez un antibiotique unique contre une bactérie, au bout d'un certain temps, il devient résistant. C'est donc le même phénomène. C'est un phénomène tout à fait classique. Donc, les variants sont en fait induits par les traitements insuffisamment efficaces tels que la vaccination. Et le variant qui apparaît est forcément résistant au vaccin, ou très fortement résistant au vaccin. Donc quand je vois des articles dans le mainstream prétendant que le vaccin permet de maintenir les variants, c'est de la foutaise, c'est un mensonge. Parce que si c'était vrai, il n'y aurait pas de reprise d'épidémie ni en Angleterre, ni en Israël. Donc on a la démonstration, non pas qu'il faut vacciner, mais au contraire, qu'il faut se méfier des vaccins qui peuvent faire réapparaître de nouveaux variants peut-être plus toxiques. Alors, non.
Attendez un instant, s'il vous plaît, parce que je vais essayer de continuer à conduire, cher Gérard, cette émission. D'abord, une question, parce qu'il y a de nombreuses coupures dans vos interventions. Est-ce que vous êtes par Internet ou est-ce que vous êtes par téléphone ?
On est par Internet, actuellement.
Bon, bah alors écoutez, je vais demander à Franck, s'il nous écoute, de vous rappeler par le téléphone. Ah, ce serait pire, d'après Franck, par téléphone. Alors écoutez...
Le téléphone, on met ça sur l'oreille.
Le problème, c'est que c'est vraiment un problème d'écoute. Donc, on va essayer, là, s'il vous plaît, pendant quelques minutes, de régler ce problème, parce que j'ai l'impression que lorsque la deuxième personne intervient, ça aggrave les choses. Et puis, il y a beaucoup de bruit parasite autour. Faites vraiment au mieux. Je vous reprends dans quelques minutes. Mais je reviens, justement, sur un point avec, parce que j'ai besoin de vous interroger sur tout un tas de sujets, dont, par exemple, ces petits pays. pays, ces tout petits pays qui n'avaient pas de, de coronavirus, et puis avec, avec la vaccination, ça flambe. Ça, vous allez nous dire tout ça dans, dans quelques minutes, Gérard et Nicole de Lépine, mais d'abord, pendant qu'on règle, on essaie de régler ces problèmes qui quand même nous empêchent d'avoir une bonne fin d'émission, pour tous les auditeurs auxquels je pense. Docteur Reliquet, je pense que j'aimerais qu'on parle un petit peu à nouveau de, puisqu'on en a parlé avec l'Inde, vous en avez parlé, l'ivermectine a semble-t-il été une façon d'empêcher l'Inde en tout cas d'avoir des taux de contamination qui ont flambé comme lorsqu'on a commencé à l'empêcher, en tout cas pour l'hydroxychloroquine. Je crois qu'il y a une information très intéressante et ça pourrait interpeller beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie et bien au-delà. C'est-à-dire que je pense, j'ai cru comprendre, docteur Liquet, c'est certainement une information de l'EMCIB, que selon vous, Merck, qui a les droits de propriété sur l'ivermectine, détruit l'ivermectine. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Parce qu'alors là... les bras m'en tombent.
Mais monsieur Stocker, remettez vos bras. Souvenez-vous de ce que Sanofi a fait avec la chloroquine.
Ouais.
La chloroquine appartient à Sanofi et Sanofi s'est rendu compte avec horreur que ça allait probablement solutionner le problème de la Covid et que tous leurs travaux des uns des autres pour fabriquer des vaccins, parce que je vous rappelle que si Sanofi n'a toujours rien sorti, c'est pas pour ça qu'ils n'y travaillent pas d'arrache-pied. Bon, ils étaient propriétaires de la chloroquine, ils se sont débrouillés pour la retirer de la vente libre et ensuite ils se sont débrouillés pour que ce ne soit plus distribués en pharmacie de ville. Et puis, pour finir, ils se sont même retrouvés à vouloir empêcher l'IHU de Marseille de pouvoir récupérer des lots pour traiter leurs patients. Tout ça pourquoi? Alors que c'était leur produit, parce que leur produit se vend à 1 euro la boîte et qu'ils n'avaient pas du tout l'intention de se retrouver à la portion congrue de 1 euro la boîte, alors qu'ils allaient pouvoir gagner des fortunes en vendant des vaccins. Voilà. Eh bien, Merck fait pareil. Merck ne dit que pique-pan sur l'ivermectine parce que c'est le produit de fond de valise de Merck. Mais Merck, il a une autre idée. Il y a le molnupinavir. Alors, on a parlé du remdesivir à une époque qui appartenait à Gilead. Mais Merck s'est préparé un espèce de produit, mais qu'il a déjà vendu aux États-Unis, pour 1,2 milliard de dollars. Ce qui veut dire que, comme ils vont vendre la dose à 700 dollars, vous imaginez bien que c'est quand même pas le moment de faire ressortir de l'ivermectine. Donc l'ivermectine est une cochonnerie pour Merck, comme la chloroquine est une cochonnerie pour Sanofi, parce que ces produits repositionnés dans la Covid, c'est une catastrophe industrielle. Voilà, c'est juste une question d'argent. C'est pour ça qu'on ne pourra, qu'il faut se battre, mais qu'en fait on n'aura jamais raison, parce que ces gens-là sont en train de vouloir nous imposer de gagner des sommes astronomiques sur notre dos. Et maintenant, ça sera peut-être même de manière obligatoire. Donc voilà, il est hors de question qu'on se traite avec de l'ivermectine. Je vous rappelle que la toxicité de l'ivermectine pour un humain est obtenue à partir d'une cinquantaine de grammes d'ingérés par jour et qu'en général, avec quelques centaines de milligrammes, on est guéri. Donc voilà, c'est un produit qui n'a aucun effet secondaire, qui est parfaitement bien toléré. Je n'ai jamais entendu parler de ma vie de quelqu'un qui a fait une allergie à l'ivermectine. Peut-être qu'un jour ça arrivera, mais on a soigné des centaines de milliers, on a soigné des millions de gens avec des maladies abominables avec l'ivermectine et on n'a jamais eu de mort. On a eu 4000 cas d'effets secondaires en 30 ans de démontrer. Je ne sais plus à combien de millions d'effets indésirable grave, on a avec les vaccins depuis qu'on a commencé les vaccins Covid. Voilà, on en est là.
Ça, c'est des chiffres encore que l'on va demander à Nicole et à Gérard de Lépine. Vous nous entendez? Est-ce que la liaison est meilleure maintenant?
Nous, on entendait, on a toujours bien entendu. Hein, c'est plutôt vous qui ne vous entendiez pas.
Si ce n'était que moi, ce ne serait pas si grave. Mais c'est les dizaines de milliers ou centaines de milliers d'auditeurs.
Vous nous entendez là maintenant?
Alors, moi, je veux continuer avec vous sur tous ces petits... On reste dans les statistiques, on reste sur du concret, parce que c'est on nous assomme de folie idéologique actuellement. Il faut répondre concrètement, contrairement à ce que cet auditeur qui disait qu'il voulait qu'on reparte dans les délires de la pandémie. Moi, je veux du concret. C'est-à-dire, je vous ai eu avant cette émission, Nicole et Gérard, de l'Épine. J'aimerais que vous me disiez un petit peu où nous en sommes du nombre de morts, de la réalité du nombre de morts, à la fois en Europe, à la fois en France, en Europe et dans le monde, de la vaccination. Auparavant, puisqu'on était sur un petit pays comme Israël, j'aimerais vous entendre sur ces petits pays comme Gibraltar, comme les Seychelles. C'est un paradis normalement sur Terre, les Seychelles. Ils en ont fait un enfer. Donnez-nous des chiffres concrets sur avant et après la vaccination. C'est essentiel.
Alors effectivement, il y a les gens, les pro-vaccins, ceux qui veulent absolument vendre leurs milliards de vaccins, nous citent toujours l'immunité collective acquise par le vaccin. Alors tout ça, c'est du baratin. Ça existe peut-être dans d'autres maladies, je ne sais pas, avec d'autres vaccins, mais pour le Covid, ça ne marche pas. Alors ça ne marche pas tout simplement parce qu'on a des exemples. Et le plus bel exemple, vous l'avez cité, c'est Gibraltar. À Gibraltar, ils ont vacciné comme les Anglais, hein, même si c'est un État officiellement indépendant, ils ont vacciné à partir de décembre. Et avant la vaccination, ils avaient un mort et environ 500 cas connus de Covid. Et après la vaccination, ils ont fait exactement comme le pays. Ils ont multiplié par 4 immédiatement leur nombre quotidien d'infections et ils ont multiplié au total par 15 le nombre total de morts. L'agence, avec 115% de vaccinés, parce qu'ils n'ont pas vacciné seulement les citoyens de Gibraltar, mais ils ont aussi vacciné les Espagnols qui travaillaient à Gibraltar. Donc c'est pour ça que c'est le pays qui est arrivé au plus fort taux de vaccination, qui est de 115%. Bon, et avec 115%, ils ont multiplié par 5 leur nombre de morts et par je ne sais combien, mais 4 ou 5 leur nombre de contaminations, et très brutalement, tout de suite après le vaccin. Donc c'est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Alors les Seychelles, c'est à peu près pareil. Les Seychelles, ils avaient eu très peu de cas. Alors c'est un pays qui est déjà plus important, hein, c'est 100 000 habitants, les Seychelles. Mais c'est un très pauvre pays d'Afrique qui vit essentiellement du tourisme. Et ils ont été très inquiets à cause de la crise qui bloquait les avions et qui disaient il faut absolument rassurer les touristes, venez chez nous, vous n'aurez aucun risque. Et vous n'aurez aucun risque parce qu'on va vacciner toute notre population. Alors on leur a donné des vaccins, essentiellement la Chine et l'Inde, et ils ont vacciné au maximum, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à 70% de vaccination globale et 90% dans les gens de plus de 80 ans. Donc c'est l'exemple même de la soi-disant immunité collective. Eh bien, ça a explosé. Ils ont multiplié le nombre de morts par 19 et le nombre de contaminations depuis la vaccination par 4. Et ils ont été obligés, eux qui n'avaient jamais confiné, puisqu'ils n'avaient pas le Covid dans leur île, ils ont été obligés de confiner leur population. Et là, maintenant, ils font tous la tête parce que, effectivement, la saison touristique est très mal partie. Donc, c'est l'exemple du pari à ne pas faire de vacciner quand vous n'avez pas de maladie.
Ça peut être complètement anecdotique, docteur Delépine, mais j'aimerais, avant qu'on parle du nombre de morts, peut-être avec Nicole Delépine, qu'on n'a pas entendu globalement en Europe et dans le monde, qu'on revienne sur un grand pays. Alors, on nous a expliqué finalement que l'Angleterre, depuis quelques mois, qui a été la première à vacciner, et on s'en félicitait avec AstraZeneca, est un pays qui n'en sort plus de la pandémie aujourd'hui.
Ben oui, parce qu'ils ont fait apparaître un variant, hein, qu'on appelle le variant indien, on ne sait pas en fait, enfin un variant, qui a fait démarrer à nouveau la pandémie à toute vitesse. Je vous ai dit, actuellement, enfin à la date d'hier...
Pour vous, ce sont les Anglais qui ont déclenché le variant indien ?
Non, c'est le vaccin, Non, là, il faut être raisonnable. On va faire comme l'OMS, on ne donne plus de nom d'origine aux variants. Hein, on donne les lettres de l'alphabet grec, et là, à la vitesse où apparaissent les variants, l'alphabet grec ne va pas suffire longtemps. Hein. Il va falloir prendre l'alphabet arabe, l'alphabet persan, l'alphabet indien.
Alors, donc, quand même, une question qui, moi, parce que je sais, parce que quand on entend les grands médias, ils ne répondent jamais à cette question. Je l'ai entendu dernièrement, je suffoquais de colère. Une journaliste, et d'ailleurs, elle ne lui a pas reposé la question, dit à un journaliste, à un médecin de haute renommée, semble-t-il, mais est-ce que c'est plus, le nouveau variant est plus contagieux, mais est-il plus dangereux? Et en fait, il ne répond pas à cette question.
Alors, je répondrai très clairement tout de suite.
Allez-y.
Il est plus contagieux, c'est vrai, mais il est totalement bénin.
Ben voilà.
Il est totalement bénin, sauf pour les vaccinés. Actuellement, en Angleterre, il y a peu de morts.
Sauf pour les vaccinés.
Les vaccinés ont trois fois plus de risques de mourir du Covid nouveau anglais que de l'ancien, que les non-vaccinés. Donc le fait d'avoir été vaccinés, ils sont fragilisés par le vaccin envers le nouveau variant, puisque le variant est apparu à cause du vaccin. Donc, par définition, il est résistant. Sinon, il ne pourrait pas démarrer l'épidémie. Et les vaccinés préalables ont un plus grand risque de mourir que les non-vaccinés. Alors, il faut bien dire aussi qu'il n'y a pas qu'en Angleterre qu'on voit ça. Là, on pleurait dans les Landes parce qu'on avait le variant anglais qui apparaissait. Il faut savoir, et on a médiatisé très fortement, la mort de deux vieux dans les EHPAD. Ce qui a été beaucoup moins médiatisé, c'est que les deux vieux en question avaient été vaccinés à double dose, là aussi. C'est donc un peu le même phénomène qu'en Angleterre. La vaccination préalable augmente le risque de mourir du variant, du nouveau variant, si par malheur on attrape la maladie.
Et c'est extrêmement clair, hein, c'est extrêmement clair.
Docteur de l'épine, Nicole. Oui.
Non, c'est extrêmement clair. Toutes les statistiques le montrent, hein, que tous les vaccinés meurent plus s'ils sont malades que les non vaccinés. Et en particulier, même notre ami Véran l'a dit, enfin si j'ose dire notre ami Véran. Oui, mais bon, oui. c'est un risque réel. Quoi. Donc vraiment, je ne sais pas vraiment où on en est, ce qui nous reste comme temps, mais il faut vraiment dire aux gens que cette vaccination...
Alors, on vous écoute.
Pas un vaccin. Je crois que c'est vachement, enfin très très important que les auditeurs se mettent bien ça dans la tête. Ce n'est pas un vaccin, parce que c'est sur ce nom, sur le mot usurpé de vaccin que la publicité est faite. Et que les grands arguments des journalistes, avocats, etc. qu'on voit, n'est-ce pas, discuter sur les médias, mais enfin, vous avez toujours été vacciné. Machin, vous n'avez pas tant d'histoire. Eh bien, peut-être, on faisait pas tant d'histoire, encore que l'hépatite B que vous avez citée, on pourrait peut-être en reparler, mais enfin, ce n'est pas le sujet du jour. Mais pour la plupart des vaccins, effectivement, on ne faisait pas tant d'histoire. Néanmoins, là, on n'est pas dans le cadre d'un vaccin, on n'est pas dans la définition du vaccin, selon Pasteur. Et quand on cite Pasteur toutes les 5 minutes, peut-être que cet homme, il se retourne dans sa tombe, parce qu'on n'est pas du tout dans les vaccins, on est dans une injection d'une substance génique travaillée sur le plan génétique. Hein. Bon, ça fait longtemps que les généticiens essayent de trouver des astuces pour manipuler l'ARN messager pour éventuellement guérir des maladies génétiques. Hein. C'était le boulot du professeur Fischer, hein, pédiatre, qui travaillait sur les enfants bulles. Et bon, on ne peut pas lui reprocher d'avoir essayé de manipuler les gènes d'enfants qui ne pouvaient pas sortir de bulles après être nés. Hein. Par contre, faire ça à des enfants sains, ça devient un autre problème. Et vraiment, il faut que les gens aient bien en tête qu'on n'est pas du tout dans le cadre d'un vaccin, ni sur le plan médical, ni sur le plan juridique. Et ça, c'est très important, parce que quand on nous dit à la télé toutes les 5 minutes que c'est un vaccin et que ça pose pas de problème, à la limite l'obligation, puisqu'on a bien rendu 11 vaccins obligatoires, là aussi on pourrait revenir là-dessus, parce que comme exemple de bonne pratique, c'est peut-être pas vraiment le meilleur. Néanmoins, on n'est pas dans ce cadre, y compris juridique. On est le cadre d'un médicament qui doit satisfaire toutes les obligations réglementaires juridique qui concerne les médicaments. Et donc, quand on nous dit on pourra rendre l'obligation, on peut faire l'obligation, donc je vais tout à fait dans le sens de notre pharmacocitien tout à l'heure qui était vraiment fantastique.
Le docteur Emeline.
On est effectivement tout à fait. Alors moi, je voudrais dire ça parce que on a une émission un petit peu pessimiste quand même, si j'ose dire.
En tout cas, Nicole, vous avez répondu à une question d'un auditeur, ou plutôt une affirmation d'un auditeur qui disait qu'il fallait affirmer tout et qui doit être très heureux d'avoir entendu votre réponse, alors que la question ne lui a pas été posée, qui disait ce n'est pas un vaccin.
Mais oui, c'est le plus important.
Parce que nos auditeurs ne savent pas peut-être ce qu'est un vaccin selon Pasteur. Pasteur injecte des antigènes pour que l'organisme fasse des anticorps spécifiques à cet antigène. Donc la fabrication traditionnelle d'un vaccin de type Pasteur, d'un vrai vaccin, c'est premièrement créer des antigènes, donc on casse le virus, on casse la bactérie, on trouve pas, et après de l'enrober pour pouvoir l'injecter de manière tolérable par l'organisme. Dans les vaccins, les pseudo-vaccins actuels, il n'y a absolument aucun antigène. C'est simplement un médicament ARN. Ça n'a rien à voir avec.
Et donc là, il est capital de bien comprendre qu'on essaye de faire, en particulier par le Pfizer et Moderna, on essaye de faire fabriquer une espèce de substance qui devrait faire reconnaître servir d'antigène et faire reconnaître le fameux coronavirus s'il revient, ce qui est peu probable d'ailleurs parce que les deux précédents qui avaient donné des épidémies assez graves sont jamais revenus, mais enfin peu importe. Et ce qui est grave, c'est qu'en fait ils ne nous font pas fabriquer dans notre organisme le fameux coronavirus, ils nous font fabriquer une protéine, et vous avez sûrement entendu parler de cette protéine Spike.
Justement, Nicole, il y a eu un auditeur, j'ai voulu garder cette question pour vous, qui dit, est-ce que cette molécule, ou cette protéine plutôt, est-ce qu'elle est toxique ?
Eh bien oui, c'est bien le drame, c'est que cette protéine, elle est. Alors ça nous permet aussi d'arriver aux effets secondaires dramatiques qu'on voit. Allons-y. Elle est effectivement toxique, en particulier pour les vaisseaux et toutes les complications purpura thrombopénie. On voit des gens qui deviennent bleus. Après, il y en a qui font des embolies pulmonaires qui meurent rapidement. Il y en a qui font des infarctus. Il y en a qui font beaucoup de complications oculaires aussi qui ont été peu signalées. Mais enfin, c'est les ophtalmologistes apparemment sont obligés maintenant de les signaler tellement il y en a eu. Oui. Et puis toutes ces morts évidemment subites dont on dit ah bah c'est pas de chance, c'est 15 jours après ah bah oui bah mon mari il était kiné, il a 40 ans, il est mort brutalement. Mais vraiment ça a aucun rapport, dit le médecin. Mais si ça a un rapport, c'est très très important. Parce que
évidemment.
Moi, je veux bien vous donner quelques chiffres, sauf qu'il faut bien d'emblée se dire que ces quelques chiffres sont complètement sous-estimés par rapport à la réalité.
Donnez-nous ces chiffres, il reste 6 minutes, Nicole Delépine, donnez-nous ces chiffres.
Bah, écoutez, ces chiffres, on peut donner ceux déjà de l'Europe. Alors je voudrais dire aux gens qui sont curieux, ils peuvent aller tout seuls sur le site de l'Agence européenne et le site des effets secondaires, ça s'appelle EDRA Vigilance. Je dis aussi tous les gens qui rencontrent ça et qui ont dit c'est du fake, c'est pas du fake, c'est les chiffres officiels, qui encore une fois sont sûrement très très bas, peut-être 10 fois, 100 fois moins de la réalité. Mais comme je disais l'autre jour quand on en parlait ensemble, je veux dire là on en est à 17 000, c'est à peu près 120 morts par jour de plus sur l'Europe, hein. Enfin sur l'Union européenne puisque l'Angleterre est à part, je pourrais vous donner les chiffres. Donc là, on en est au 3 juillet à 17 503 décès reconnus, c'est-à-dire que dans le mois qui a suivi le vaccin et que l'injection génique, devrais-je dire, et qui a été plus ou moins accepté par les pharmacologues de l'Agence européenne comme possiblement un rapport. Donc il ne faut pas qu'on nous dise que ce n'est pas un rapport. Alors on va me dire, on voit des arguments absolument fabuleux, on nous dit « Ah ben oui, mais il y a eu 113 millions de gens vaccinés sur l'Europe ». Je veux bien, mais est-ce que c'est admissible pour une maladie qui d'abord tue plus de gens et tranche d'âge de mourir quand même, hein. Faut bien voir que les gens qui sont morts, c'est des gens qui seraient morts de ça ou d'autre chose, ou de la grippe l'année prochaine, ou de la si on ne va pas les chercher ailleurs ou de leur comorbidité. Donc, est-ce qu'il est admissible? Comment les gens peuvent admettre qu'il est admissible, même si c'est un chiffre qui... Admettons que ce soit le vrai chiffre, de perdre 17 000 personnes bien portantes pour leur coller un pseudo-vaccin, une injection, alors qu'ils ne couraient aucun risque. Les gens de moins de 50 ans, ils ne courent pas de risque. Pour les enfants, j'essaie de vous retrouver les chiffres. C'est très difficile de trouver les chiffres pour les enfants, en l'occurrence. Je cherchais les chiffres et je voyais un internaute qui disait « Mais enfin, qu'est-ce que ça peut faire ? Même s'il y en avait qu'un, c'est encore un de trop. » Mais c'est vrai que pour les enfants qui ont zéro risque du Covid, et les chiffres français sont les mêmes que les chiffres américains, que les chiffres anglais, et ceux-là, on les a, du Covid, personne ne meurt en dessous de 50 ans. En dessous de 30 ans, c'est tout à fait exceptionnel. Et en dessous de 19 ans, il n'y en a pas. Il n'y a pas de malades du Covid. Les trois malades qu'on a eu en France dans l'année 2020 de mort, c'était des enfants qui avaient des comorbidités majeures, qui étaient en train de faire une leucémie ou autre chose, et bon, qui sont morts avec le Covid, et on a dit Covid. Mais bon, comme ils mouraient avant, moi, les rougeoles dans mon temps, et quand j'étais jeune pédiatre, on ne vaccinait pas, et les gens ne mouraient pas de rougeole, sauf les leucémies qui mouraient de rougeole, effectivement. C'est-à-dire, quand vous avez une leucémie, vous avez le droit de mourir d'un virus qui habituellement ne vous tue pas. Mais il faut vraiment que les gens aient bien en tête que c'est invraisemblable qu'on laisse mourir. Alors je vous dis, c'est 17 000
Nicole, il faut conclure et je veux que Vincent Reliquet conclue. Donc terminez en 30 secondes maximum.
Eh bien écoutez, aux USA, il y a eu 396 morts d'enfants vaccinés. Et là aussi, est-ce que c'est admissible? Je rappelle, alors je vais vous rappeler en 30 secondes, que pour le vaccin H1N1, il a été supprimé par les autorités, la FDA, quand il y a eu 57 morts. Et la même chose pour le vaccin contre la grippe aviaire. Donc autrefois, quand il y avait des morts pour une molécule ou pour un vaccin, on savait arrêter. Et là, pourquoi on n'arrête pas? Et pourquoi les gens ne sont pas dans la rue pour dire qu'il faut arrêter ça? Et pourquoi les gens vont encore se faire vacciner alors qu'ils courent des risques majeurs? Les risques majeurs à terme, à long terme, hein, on n'a pas le temps de parler de stérilité.
Non, on aurait pu en parler. Merci beaucoup à vous, docteur Gérard et Nicole Delépine. Je veux consacrer cette conclusion où il ne vous reste moins d'une minute. Docteur Reliquet, c'est à vous de conclure.
Ah bah, 20 secondes, une seule chose, vous avez des bulletins de vote, il faut pousser nos futurs représentants aux élections présidentielles à se positionner vis-à-vis de l'obligation vaccinale.
Et oui.
Sinon, on y va tout droit dans la catastrophe.
Merci,
en tout cas, merci beaucoup pour cette journée.
Au revoir.
Au revoir.
Merci à tous. Merci, chers auditeurs de Radio Courtoisie, pour cette écoute. Il est encore 20h56, vous vous rendez compte. Et il me reste, moi, quelques secondes pour conclure, mais ça y est, le générique de fin est lancé par Franck. Merci à tous de cette écoute. Merci pour la qualité de cette émission, chers auditeurs. Et à très bientôt dans ce libre journal de la Résistance française sur Radio Courtoisie.
Merci, Nicolas.
Dans le froid et la famine, par les villes et par les champs, à la belle des midi.
Vous venez d'entendre le libre journal de la Résistance française, dirigé aujourd'hui par Nicolas Stocker, assisté de Lara Stam, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 7 juillet 2021, de 18h à 21h, et réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros. Ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.